Merci. Bonjour tout le monde. Donc, Hassan Moubakri, je suis universitaire, enfin, université de Sousse, voilà, en Tunisie. Alors, comme, pour être très rapide, alors, la première question est destinée à M. Chepet et à Vincent. Et je crois que, de toute façon, les trois interventions, Catherine, Jean-Pierre, enfin, par rapport à la définition des politiques migratoires et la différence entre politique migratoire et administration des flux, à partir de quel moment on peut parler de politique migratoire? Et je veux surtout enfin, que ce soit décliné par rapport aux pays de transit ou de départ, parce qui ont des expériences, disons, relativement fraîche et récente par rapport à la gestion des flux et comment ils sont confrontés à ces flux de plus en plus depuis les années 90, lorsqu'ils sont devenus des pays de transit. Donc je crois que ça c'est une question qui se pose beaucoup parce que des pays comme la Tunisie ou le Maroc, depuis les années 90, qui gèrent ces flux de transit, par exemple de migration irrégulière, est-ce qu'on peut parler, avec l'accumulation aussi bien des pratiques administratives que des lois qui succèdent, est-ce qu'on peut parler de politique migratoire? Donc, à partir de quel moment peut-on parler de politique migratoire dépassant le terme du administration des flux, management? La deuxième question, c'est la question de la déchéance de nationalité. À un certain moment, on s'est dit le droit du national à rentrer dans son pays. Et là, nous avons deux exemples de pays qui se posent en ce moment même par rapport à la question des combattants qui rejoignent le djihad en Syrie, enfin en Moyen-Orient, même en Libye. Alors, en Angleterre, au Royaume-Uni, on a parlé de déchéance. Quoi que c'est en discussion, je ne sais pas où ça en est, mais j'ai l'impression que au niveau de l'opinion publique, il y a une certaine acceptation. Je ne sais pas au niveau juridique comment ça peut se passer. En Tunisie, clairement, même si la Tunisie, aussi bien au niveau d'opinion publique que des autorités, tout le monde est d'accord d'essayer d'interdire à ce que les Tunisiens qui sont engagés dans le djihad rentrent en Tunisie. Mais clairement, le gouvernement tunisien, les autorités viennent de dire qu'ils seront admis en Tunisie, réadmis en Tunisie, mais ils seront jugés. Donc, je voudrais savoir un peu quelle est la position du droit par rapport à ça. Dernière remarque très rapide par rapport à l'inspiration et la circulation des emprunts et des inspirations. Je me souviens qu'en 2009, du temps de Berlusconi en Italie, Jean-Pierre, il y avait une loi qui a consacré le devoir de presque de délation, puisque il pénalisait le devoir, enfin, la solidarité. Donc il me semble que la circulation des emprunts va dans les deux sens, je veux dire, du nord vers le sud et du sud vers le nord. Merci beaucoup.
Est-ce qu'on prend une série de questions? On peut prendre une série de deux questions et puis ensuite on va partir au message.
Cécile Brodeau, directrice de recherche à l'Université de Sylvie Recherche pour le Développement. J'avais deux questions. La première à Catherine Victor de Vanden. Vous avez pointé l'importance des logiques migratoires régionales, et j'ai cru comprendre dans votre intervention que ce phénomène, vous le présentiez un petit peu comme récent. Et moi, je me disais qu'il y a peut-être une hétérogénéité aussi au niveau de ces logiques régionales, puisque notamment en Afrique, il me semble que c'est très ancien, au contraire, que la migration intra-africaine reste très très importante. Et voilà. Donc est-ce qu'il n'y a pas plutôt un glissement, plutôt une régionalisation de la gouvernance, hein, dont il a été question ensuite. Il me semble que c'est peut-être plutôt cette idée-là. Ah, bon. Deuxième question, sur tout ce qui est transfert de modèles, etc., de réappropriation de Chine, tu parlais de réciprocité. Moi, je me demandais si à l'inverse, toutes les réappropriations auxquelles adviennent les slackers du côté au sud, est-ce qu'eux-mêmes ne peuvent pas ensuite retransférer ce modèle, enfin, en tout cas, ça pourrait aussi être réapproprié au niveau européen. Donc, on peut aussi voir déjà appropriation comme ça en cascade. C'est quelque chose aussi à regarder. Et puis, sur aussi la multiplicité des acteurs, je pense que c'est aussi important de regarder, parce qu'on parle de réappropriation, mais il me semble qu'il y a aussi des renégociations. Et vous avez peu parlé des rapports de pouvoir, mais il me semble quand même que c'est au fondement de tout cela. C'est-à-dire qui décide quoi, comment. Est-ce que, je suis même très étonnée de voir aussi que les associations de la société civile, même les associations de migrants, qui pourtant jouent un rôle, on les appelle les acteurs du développement au des Sud, ceux-là apparemment ils n'ont aucune voix et en tout cas ils n'ont pas l'air de s'impliquer dans ce débat et dans la, pour le développement possible de nouvelles juridictions. Donc je suis un petit peu.
Merci. Donc une réponse de nos intervenants et puis ensuite nous repartirons sur une série de questions. Des réponses
alors,
apportées ou des
peut-être on va commencer dans l'ordre de Vincent et Catherine.
Bon, je crois que les intervenants sont beaucoup mieux placés que moi pour répondre à ces questions, mais je dirais juste deux mots et pour vraiment leur donner la parole. Politique migratoire et gestion des flux, la politique migratoire ne saurait se limiter à une gestion des flux pour être considérée comme une politique à part entière. Donc, il y a la conception managériale de la migration ne suffit pas à en faire une politique en soi, à mon sens. Il y a d'autres dimensions. Une politique digne de ce nom implique l'état de droit et le respect de garanties fondamentales du migrant hérité des droits fondamentaux inhérents à la dignité humaine. Donc, pour moi, à partir le moment à partir duquel il y a une politique migratoire, ne se résume pas à la simple gestion des flux, mais suppose une approche coordonnée, intégrée, fondée sur la notion d'état de droit, qui est la quintessence finalement de la politique. Et sur la déchéance de la nationalité, alors la déchéance de la nationalité devient impossible et illégale lorsqu'elle se transforme en privation arbitraire. Et notamment, la principale limite, c'est qu'on ne peut déchoir la nationalité si le résultat est de transformer la personne en la patrie. Donc, mais là, alors on a la chance d'avoir Hélène Lambert qui a fait une étude de référence sur la question. C'est pour ça que je préfère laisser la parole à Hélène Lambert qui a fait une étude vraiment la plus aboutie jusqu'à aujourd'hui sur le sujet.
Voilà. Merci. Alors tout d'abord, politique migratoire et administration des flux. Alors effectivement, les deux se mêlent. Très souvent, en ce moment, je suis en train de lire une thèse sur la politique d'immigration sous la 4e République. Il y avait une volonté de faire une politique migratoire dans un contexte où il y avait une sorte d'administration des flux assez informelle et d'une certaine façon, l'un précède l'autre et réciproquement. Donc c'est parfois difficile de démêler les deux parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on était, on s'acheminait vers non seulement des espaces migratoires régionaux, des systèmes migratoires régionaux, mais aussi des régimes migratoires régionaux. Et des régimes migratoires, c'est une sorte de bricolage, de mélange entre un contexte institutionnel et des pratiques. Toute règle institutionnelle connaît des pratiques qui varient selon le contexte politique, selon les traditions de guichet, selon toute une série d'éléments, les contraintes qui sont liées aux besoins de main-d'œuvre, etc. Et donc, on est dans une sorte de cuisine, si j'ose dire, qui est un mélange de politique migratoire et d'administration des migrations. C'est ce qu'on a constaté dans beaucoup de pays européens, mais c'est aussi le cas à l'échelon européen, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de fabriques, disons, d'habitudes qui sont en marge des textes véritablement et qui sont liés à des contextes donnés. Alors, d'autre part, sur les logique migratoire régionale, vous avez raison, sur l'Afrique, il y a beaucoup de traditions migratoires très anciennes, c'est aussi le cas pour beaucoup de régions du monde, vous pouvez oublier qu'on a 50 millions de Chinois dans le monde qui sont pour l'essentiel autour de la Chine, et tous ne sont pas apparus à partir de 1990. Ceci dit, ce que je voulais dire, et je pense que j'aurais peut-être dû ajouter, notamment dans les pays d'immigration, de peuplement. C'est beaucoup de pays d'immigration, de peuplement, qui avaient une migration d'abord très fortement européenne, et puis ensuite en partie régionale, en partie liée à des réseaux transnationaux lointains, etc. Aujourd'hui, on a de plus en plus des logiques migratoires régionales parce que des gens qui ne bougeaient pas se sont mis en route. Et ça, ça accentue considérablement les phénomènes de logique migratoire régionale. C'est vrai particulièrement pour l'Amérique du Sud, où les paysans qui travaillaient le café avec la crise du café ont commencé à bouger, etc. Des femmes, des enfants, des catégories nouvelles de migration qui ne sont pas des gens qui vont très loin, mais qui vont dans la région dont fait partie leur pays. Donc c'est un phénomène en pleine croissance, et avec ces logiques migratoires régionales, il y a aussi des formes de régionalisation plus ou moins, abouties, plutôt moins abouties que plus abouties de la gouvernance, parce que beaucoup d'espaces migratoires régionaux de libre circulation ont été mis en place dans ces contextes, mais ne fonctionnent pas très bien ou parfois pas du tout.
Par rapport à la politique migratoire, justement, on tend, selon moi, enfin, je dirais presque à sacraliser, pour ne pas dire, même isoler plutôt la question migratoire de problématiques qui sont beaucoup plus générales. Quand on parle de politique migratoire, pour moi, c'est comme si on devait parler aussi de citoyenneté, de participation à un projet social et politique. Et à mon sens, c'est inséparable aussi de toutes ces questions. Inévitablement, il n'y a pas à parler de la participation des migrants à un projet politique et social collectif. C'est aussi s'intéresser également, je dirais, aux autochtones d'une certaine manière, par effet de contraposition, je dirais. Donc, c'est pour ça que le terme de politique migratoire, pour l'heure, a été souvent entendu comme, tu as voulu le souligner aussi, tu as raison, c'est-à-dire comme une politique visant à gérer au fur et à mesure les flux tels qu'ils se présentent. Enfin, voilà. Et c'est vrai qu'à mon sens, s'il y a une forme pour l'heure de statu quo, ce n'est pas uniquement parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans ces questions-là, c'est aussi parce que la question en tant que telle soulève d'autres questionnements, entre autres le rapport entre État et société. Et je pense que c'est une plus grosse question encore.
Ok, je vais commencer par la déchéance de la nationalité. Donc vous avez tout à fait raison, la loi britannique a changé en juin 2014 et nous avons maintenant une nouvelle loi qui permet la déchéance de la nationalité dans des cas qui n'avaient pas été prévus auparavant, notamment dans la possibilité de déchoir la nationalité à un individu qui pourrait devenir apatride, à condition que cela soit nécessaire pour protéger l'intérêt vital de l'État. Donc c'est le cas notamment des combattants qui s'en vont en Syrie. Il y a eu des exemples, je crois que jusqu'à présent, il y a eu une petite vingtaine d'exemples comme cela. Le problème, c'est que ça a créé en fait un problème de droit international dont Vincent a parlé ce matin, qui est le droit coutumier, le droit que les États sont obligés de réadmettre leurs nationaux. Donc s'ils déchoient la nationalité quand la personne est à l'étranger, donc par exemple, la personne sort avec son passeport britannique, arrive en Syrie, est déchue de la nationalité alors qu'elle se trouve en Syrie, devient apatride, qu'est-ce qu'on fait de cet individu? Bon, jusqu'à présent, malheureusement, ils ont été tués par des drones américains, donc l'idée ne s'est jamais présentée, en fait, concrète. Mais s'ils avaient survécu, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils sont en orbite avec aucun pays pour les accueillir. Alors c'est un problème...
Ils ne sont pas rentrés
okay. Parce qu'ils ont été tués par des drones américains. Ouais. Tous, on parle, en fait, en ce moment, je crois qu'il y en a 4. Mais c'est très difficile d'avoir ce genre de chiffres, en fait. Mais nous avons un bureau de investigative journalism basé à Londres qui a accès à toutes ces informations. Mais ça, en fait, ça pose un problème essentiellement de droit international et de bonne coopération entre États. Le ministre de l'Intérieur, Theresa May, ignore le problème international qui pourtant lui a été présenté et on en est en fait à cette situation.
Excusez-moi, ma question c'était comment ça a été justifié au niveau juridique national, c'est-à-dire au Royaume-Uni par rapport à la Constitution, à la loi fondamentale.
Protection de l'État. Intérêt vital de l'État. Le Canada a une provision similaire dans sa législation, toute récente aussi. Mais alors là-bas, ils ont un procédé un petit peu différent, c'est-à-dire que l'individu en question a droit à... La procédure est criminelle. Donc il a toutes les garanties pénales qu'en Angleterre, l'individu n'a pas. Parce que le procédé de déchéance ne passe pas par le système pénal. Quoi.
Excusez-moi encore, par exemple, moi je dis rapidement, par exemple, pour la Tunisie, pourquoi le Royaume-Uni met en avant la question de l'intérêt de l'État, sécurité nationale, pourquoi la Tunisie, moi j'imagine que les autorités tunisiennes aimeraient bien mettre en avant cet argument, mais ils ne le mettent pas parce que la Constitution ne le permet pas. Alors, sur le plan juridique, comment on joue de ça? C'est ça ma question.
C'est le système. Bon, d'abord, nous n'avons pas de Constitution écrite. Ensuite, c'est le système de législation en Angleterre est quand même très différent de la plupart des États de droit civil. Donc, c'est un procédé qui est passé au niveau législatif, mais on verra bien si ensuite ça va passer au niveau des cours. Donc les juges britanniques ont quand même un pouvoir d'interprétation qui est énorme, comparé par exemple à un juge français. Donc on attend que les affaires en fait montent à ce niveau-là. Un petit point sur la réciprocité, parce que je suis sûre que Delphine va en parler aussi, mais c'est une question intéressante parce que, en fait, tout à fait, les normes ou idées, etc., ne voyagent jamais dans un sens uniquement, elles voyagent aussi dans le sens opposé. Et un exemple, c'est l'Australie qui, il y a des années, bien avant que l'idée de pays tiers sûr apparaisse en Europe, a émergé en Australie. Et en fait, ils ne l'ont pas adoptée, et elle a émergé ensuite en Suisse, et puis aux Netherlands, et puis ensuite au niveau de l'Union européenne. Donc les idées voyagent dans tous les sens. Oui, oui.
Merci beaucoup. Une dernière réponse.
Oui, du coup,
c'est une question.
Voilà, c'est juste pour déjà confirmer ce que Hélène disait, c'est même pas seulement dans un sens et dans l'autre, c'est vraiment dans tous les sens. Tout à l'heure, je n'avais pas cité effectivement qu'il y avait aussi la Suisse qui pénalise la sortie irrégulière des étrangers. Donc, pas parce qu'elle a été influencée forcément par l'Algérie ou le Maroc, mais parce que c'est cette idée, cette norme qui circule. Et voilà. Par contre, un peu plus de mots sur la question de la renégociation des acteurs, parce que ça me donne l'occasion quand même d'expliciter quelque chose que je n'ai pas eu le temps de faire tout à l'heure. D'abord, sur la question des migrants et des associations de migrants, je pense qu'au contraire, on note vraiment un développement de leur action. En plus, ils se greffent sur des réseaux eux-mêmes en développement, des réseaux transnationaux de la société civile. Encore une fois, au Maroc, ils sont d'un dynamisme incroyable. Et du coup, ça me fait le lien avec quelque chose que je voulais souligner, qui est la grande imbrication entre acteurs. Et par exemple, j'ai été étonnée de voir que le ministre marocain de la migration connaît certains représentants des migrants par leur nom et par leur prénom, qu'il connaît un peu même leur histoire. Et ça, c'est un élément très important, le développement des acteurs. Je pense aussi une déconstruction finalement des catégories d'acteurs, parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile d'associer un type de norme à un type d'acteur. On ne peut plus dire la société civile est pour les droits de l'homme, les États sont répressifs. Et ça, on note par exemple entre le Maroc et la Tunisie, la société civile en matière d'asile qui ne défend plus les mêmes choses. Bien sûr, ils sont ensemble sur des objectifs communs et sur certains points, mais ensuite sur l'adoption, le choix d'option juridique ou politique, on va voir de grandes différences. De même, au niveau des ministères, entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Migration, on n'a pas du tout les mêmes approches et donc on ne va pas aboutir aux mêmes influences. Et il y a une imbrication très importante entre tous ces acteurs et qui est très bien représentée au sein du Conseil national des droits de l'homme marocain, qui comprend un peu les représentants de tout le monde. Je finis là-dessus.
Donc, beaucoup de questions, je crois. Est-ce que vous pouvez lever la main de gros ? 1, 2, 3, 4, 5. Écoutez, je vous propose, puisque le temps malheureusement tourne, de poser des questions et ensuite les conférenciers répondront. Alors, pardon, des questions courtes et des réponses relativement courtes aussi.
Fernando Arguetaz, chercheur à l'Université de Saragosse, enseignant postdoctoral au CERIC. J'ai une question bien concrète pour Mme Lambert. Vous avez parlé de la diffusion de la normative européenne. Ma question concerne plutôt les limites de cette tendance. Vous avez donné des exemples d'exportation de la normative européenne en Amérique latine, si on peut parler de cette manière. Mais j'ai l'impression que la Cour interaméricaine des droits de l'homme ne participe pas à cette tendance de réception de la normative européenne, ou en tout cas, elle participe moins à cette tendance. C'est vrai, la Cour cite la Cour européenne des droits de l'homme, un peu moins, si mes souvenirs sont exacts, la normative de l'Union européenne, mais en tout cas, j'ai l'impression que l'esprit des décisions de la Cour interaméricaine des droits de l'homme est beaucoup plus libéral que l'esprit de la Cour européenne et, bien sûr, beaucoup plus libéral que l'esprit de la normative européenne. Juste comme exemple, je mentionne récent, il y a deux ans, je pense, l'arrêt Familia Pacheco Tineo et, bien sûr, aussi l'avis consultatif sur les mineurs migrants. Je ne sais pas si vous partagez mon avis.
Bonjour, je suis Stéphanie Kellepoutre du Commissariat aux réfugiés des Nations Unies à Rabat, au Maroc. Et je ferai une intervention cet après-midi, donc je ne vais pas parler de ce que je parlerai cet après-midi. Mais juste pour vous dire que, un an après le début de la nouvelle politique au Maroc, les associations ont été très critiques des autorités marocaines qui avaient commencé à rédiger le projet de loi, parce que justement, elle était trop calée sur l'exemple européen. Et en fait, ça a été martelé à plusieurs reprises. Et en plus, l'influence de la société, l'implication de la société civile et des académiciens, des professeurs de droit marocains a aussi été critiquée parce que les autorités ne prenaient pas en compte ces opinions. Donc c'est vraiment pour dire qu'il ne faut pas, et ils sont tout à fait conscients de la problématique d'essayer d'aller copier-coller un système européen qui n'est pas du tout transposable dans des pays qui n'ont pas du tout les mêmes contextes, qui n'ont pas du tout les mêmes facilités budgétaires. Et donc on n'est pas du tout dans un contexte où tout est à prendre. Et bien au contraire, il y a beaucoup de choses qui sont à laisser sur le système européen. Et donc c'est en ça sur lequel on travaille beaucoup avec les gouvernements pour leur dire oui d'accord, vous regardez sur l'Europe ce qui s'y passe, mais n'allez pas chercher les mauvais exemples parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Merci pour ce témoignage.
Marie-Monique de la CIMAD. Donc c'est une question à l'attention de Jean-Pierre Casarino à propos de ces procédures accélérées d'expulsion sur lesquelles vous avez terminé. J'avais trois questions en fait, parce qu'il me semble que ces accords rapides, là, ces quick return agreements, ont été signés avec la Tunisie au moment de la révolution, mais également avec l'Égypte, me semble-t-il. Et du coup, la première question, c'est sur quelle base légale ces accords ont été signés? Quelle forme juridique prennent-ils? Est-ce que ce sont des accords de lettres informels? Est-ce que ce sont des accords internationaux? La deuxième question, c'est est-ce qu'ils ont été appliqués uniquement pour les personnes qui étaient interceptées en mer? Donc les Tunisiens et les Égyptiens qui arrivaient par voie maritime. Et ma troisième question, c'est est-ce qu'ils sont encore appliqués aujourd'hui?
Martina Taziani, postdoctorante à l'OMS. Ma question, c'est pour Jean-Pierre Cassarino. Et je suis très intéressée à votre lecture des accords bilatéraux entre la Tunisie et l'Europe. Et je me demande quelle est la position aujourd'hui de la Tunisie face à la proposition de l'Union européenne d'entrer dans les eaux libyennes pour faire la guerre aux smugglers. Et donc pour ce qui concerne Unafor, la position de l'Algérie et de l'Égypte, c'est au moins un niveau officiel clair. Ils ont déclaré qu'ils vont participer à leur manière à l'opération, à donner des infos. Et la Tunisie, la position me semble plus ambiguë. Je sais que le ministre des Affaires étrangères a déclaré que la Tunisie est contraire, mais après, il n'y a pas de débat sur ça en Tunisie, il me semble. Et d'autre côté, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de la relation en ce moment entre la Tunisie et les États-Unis, parce que je sais qu'il y a une proposition de mettre en place une base militaire en Tunisie, mais même cette info-là, c'est pas confirmé. Et si les États-Unis sont engagés ou pas dans le financement de la barrière entre la Libye et la Tunisie, que je n'arrive pas à comprendre exactement qui l'a financé.
Bonjour, Nadia Cruz, doctorante au laboratoire PACT de Saint-Jacques. Je ne sais pas trop à qui s'adresse la question, je pense qu'elle est assez générale, mais c'est plus par rapport aux modalités d'élaboration des textes, en fait, ou peut-être plus particulièrement à Delphine Perrin, mais sur la manière dont les États peuvent éventuellement centrer tous les dispositifs sur le droit des étrangers dans des textes spécifiques, ou au contraire utiliser une multiplicité d'outils. On le voit particulièrement au Maroc, mais je pense que ça se retrouve sur la question, par exemple, de la traite et des amendements du code pénal, par exemple, et sur la manière dont ces textes peuvent éventuellement entrer en confrontation, en compétition entre eux, dans des contextes où parfois il n'y a pas forcément d'organe de contrôle de la légalité des lois. Donc voilà, comment est-ce que tout ça peut être pris en compte et comment est-ce que les États opèrent justement entre choisir des textes spécifiques et éventuellement des textes sectoriels. On voit sur la santé, par exemple, au Maroc, entre les dispositions qui peuvent être dans la loi sur les étrangers et les textes sur l'accès à la santé. Voilà, des dispositions qui sont parfois en contradiction et qui restreignent aussi parfois l'accès au droit.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si je me permets, je peux en poser, j'en poserai une. Et on laisse ensuite à la presse pour les réponses. Donc c'est une question qui s'adresse à tous, à tous les conférenciers ce matin. Merci déjà pour vraiment ces échanges très, très riches entre nous tous. Donc vous avez insisté sur cette forte émulation, les emprunts au droit international, au droit européen, emprunts nouveaux aussi. Finalement, si je vous ai bien compris, cette émulation dynamique n'aboutit pas à un affaiblissement de la souveraineté d'État. Elle va plutôt vers un renforcement, hein, si je vous ai bien compris, du contrôle et de vous avez parlé d'un pouvoir attractif des mesures restrictives et que finalement la tendance, donc, y compris dans cette émulation des sens, cette appropriation réciproque, elle est plutôt de rendre encore plus restrictives ces mesures. Alors Vincent Chetel parlait de donner une définition de la souveraineté d'État, pardon, au regard à la fois de ses compétences, y compris donc contrôle et de gestion de la migration, et puis autre volet de responsabilité. Alors ma question, elle est quid de la responsabilité des États dans ce contexte de à la fois d'émulation mais de renforcement de la souveraineté d'État? Quid de la responsabilité des États? Est-ce qu'on va vers plus de responsabilité des États, en particulier des États du Sud? Voilà.
Je vous laisse répondre. Pardon pour cette série de questions qui entraînent évidemment forcément un tri, une sélection dans les réponses.
Alors, je vais commencer brièvement sur les limites de la diffusion et le cas de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Vous avez entièrement raison. Et d'ailleurs, il y a un livre superbe écrit sur ce sujet précisément, à faire la comparaison entre l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour interaméricaine, par Marie-Bénédicte d'Hambourg. Je peux vous donner les références après, qui soulève ce sujet. Donc oui, tout à fait. Un petit exemple des mauvais exemples, je ne sais plus qui avait posé la question. Oui, les